Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, nous voilà pour continuer notre dialogue théologique. J'en suis donc le frère Philippe Jaillot du couvent dominicain de Toulouse. Et
ici, frère Édouard d'Ivry.
Voilà, c'est avec joie que je pars sur la parole de Dieu. Nous l'avons déjà fait, c'est une question qui nous occupe. Aujourd'hui, je me dis qu'une des choses assez difficiles parfois à entendre, c'est, nous disons que Dieu nous parle, la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, et la parole de Dieu, nous la recevons dans des écritures, dans un livre. Je trouve important déjà de dire que ce livre qu'on appelle la Bible, c'est pas, finalement, ce n'est pas un seul livre et en même temps, il y a une unité. Je ne sais pas si tout le monde a conscience de ça. J'aime toujours à rappeler que la Bible, le grec « ta biblia », ça voudrait dire les Bibles, les livres, pardon, la bibliothèque, une sorte de bibliothèque. Et ça fait des livres disparates. Et pourtant, il y a une seule histoire du salut qui nous est donnée dans un livre. Et Dieu est auteur de ce livre. Quand on dit ça, certains se disent « mais comment est-ce possible? Il n'y a pas d'auteurs humains à ce livre ?» De fait, il me semble important toujours de dire à ceux qui s'interrogent qu'il y a la Bible, les livres de la Bible, ce sont des auteurs humains qui se sont succédés, et pourtant Dieu en est l'auteur. J'aime bien reprendre ce que disait le père Lagrange, justement. Il y a beaucoup d'auteurs de ce livre, d'auteurs humains, mais Dieu en est l'auteur en ce sens qu'il a autorité sur cette parole, qu'il en fait une parole de vie. J'aime bien une étymologie d'autorité qui rapporte cela. Autorité, c'est ce qui fait grandir la vie en l'homme. Est-ce comme cela que vous diriez ça à ceux qui s'interrogent sur le fait que Dieu est auteur de la Bible, alors qu'il y a plein de gratte-papier humains, mais ces gratte-papier sont plus que des gratte-papier, ils ont mis toute leur intelligence et toute leur foi dedans.
Oui, il ne s'agit pas dans l'inspiration de la révélation, de scribes qui ne feraient que recevoir les choses sous une dictée, si vous voulez, extérieure. Ils ont vraiment reçu intérieurement cette parole de Dieu. Dieu leur a parlé et c'est Dieu qui a unifié cet ensemble que nous appelons la première alliance et la deuxième alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 45 livres de l'Ancien Testament, 27 livres du Nouveau Testament, c'est le même auteur. S'il faut faire un acte de foi extraordinaire pour reconnaître la main de Dieu et l'inspirateur par excellence de tous ceux qui ont contribué à manifester ce charisme qui est unique, un charisme prophétique, il a fallu vraiment une lumière prophétique en eux de révélation, d'inspiration, d'assistance régulière du Saint-Esprit pour que cela se réalise jusque la conclusion, je dirais, de la matière même des textes, finalement, qui nous ont rejoints. La parole de Dieu est donc contenue dans les Écritures. Ce n'est pas l'inverse. Le Dei Verbum, qui est la grande constitution dogmatique de l'Église Vatican II, le dit clairement. La parole de Dieu est contenu dans les Saintes Écritures. Et il y a pour nous une appropriation donc de ces Écritures. Ignorer les Écritures, dont le centre est le Christ, ignorer les Écritures, dit saint Jérôme, c'est ignorer le Christ. Et là, il y a un point pour nous chrétiens d'obligation d'être un auditeur de la parole de Dieu. Si je ne suis pas chaque jour auditeur de la parole de Dieu, d'une certaine manière, je relativise cette révélation qui a été donnée, et Isaïe est un bon témoin. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Cette attitude donc d'éveil évoquée en d'autres temps, nous aide à comprendre que le réceptacle important pour étudier la parole de Dieu, et non pas ce regard extérieur qui dirait, ben voilà, la cosmologie de la parole de Dieu est périmée, on parle des cieux d'en haut, des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Tout le monde sait qu'il n'y a pas des eaux en haut. Gagarine ou les autres cosmonautes qui sont allés dans l'espace nous sont revenus et nous ont dit qu'il n'y avait pas d'eau supérieure. Le ciel est nettement mieux compris de nos jours. La Terre tourne autour du Soleil, alors que dans bien des passages de la Bible, on a l'impression que c'est le contraire. Comme nous en avons l'impression, quand on est ici-bas sur la Terre, nous voyons le Soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, comme un mouvement qui nous entoure, alors que c'est nous qui tournons autour du Soleil. C'est une expérience, évidemment, qu'il a fallu d'abord comprendre, mais Dieu nous a donné une intelligence. Et il ne nous demande pas d'abandonner notre intelligence quand on approche les Écritures. Les Écritures nous sollicitent, non seulement dans la dimension de la foi et du cœur, comme nous venons de l'évoquer rapidement, mais aussi du côté de l'intelligence des Écritures. Je dois saisir le grand Marianus, qui était un des cardinaux à l'époque de l'affaire Galilée, disait « L'Écriture ne nous dit pas comment est fait le ciel, mais comment on va au ciel », c'est-à-dire le ciel qui nous attend, le ciel des bienheureux, le ciel de la vie divine, avec Jésus ressuscité, avec la Vierge Marie, les anges et les saints. Voyez, il y a dedans, chers auditeurs, un appel à comprendre la finalité. Je dois rejoindre toujours la finalité de l'Écriture, de l'auteur. Ce que Dieu a voulu nous dire à travers ces lignes, et donc je dois y mettre mon intelligence.
Alors oui, je reprends donc sur cette idée de l'intelligence de celui qui reçoit. Donc ça me fait réinsister sur l'idée de donc, l'inspiration de la Bible. Elle correspond à, j'aime dire qu'elle correspond à trois inspirations. Il y a l'inspiration de l'auteur, l'inspiration du texte et l'inspiration du lecteur. Mais du coup, je reviens sur cette idée que l'Église tient fortement que c'est pleinement la parole de Dieu, un texte sacré, l'acte surnaturel de Dieu qui se révèle dans les Écritures. Mais l'Écriture tient que c'est, on ne peut pas lui enlever cette la dimension humaine, auteur humain, auteur divin. Finalement, c'est cela, l'inspiration, ça correspond à l'incarnation du Fils de Dieu.
Tout à fait, tout à fait. Origène a une parole merveilleuse dans son commentaire d'Isaïe que je citais précédemment. De même que le Christ est venu voilé dans un corps, en sorte que les charnels voyaient l'homme en lui, mais que les spirituels reconnaissaient Dieu, ainsi toute l'Écriture divine est incorporée. C'est une très belle expression pour comprendre que, dans le fond, la parole de Dieu, c'est déjà nous annoncer ce que Jésus va faire par sa venue sur la terre, et verbum, caro, factum est, et le Verbe s'est fait chair.
J'aime bien dire la parole s'est faite chair, pour que ce soit bien clair,
oui,
que le Verbe renvoie
bien,
à la parole.
C'est bien la parole, le logos.
Jésus est la parole de Dieu, l'ultime révélation de Dieu.
Jésus est l'ultime révélation de Dieu, c'est très bien dit. Et il est la parole, il est le logos, selon l'expression du prologue de saint Jean. Au commencement était le Verbe, le logos, et ce logos est Dieu. Ce logos est en relation avec Dieu le Père, avec Othéos, le Dieu, c'est le Père, et il est Dieu parmi nous depuis son incarnation qu'il a voulu dans un mouvement de pur amour, dans un mouvement de gratuité. La parole de Dieu se donne gratuitement, mais efficacement. C'est ça qu'il faut saisir, que il y a dans cette parole de Dieu un mouvement irréversible, parce qu'une fois que Dieu s'est incarné, à la fin des temps, il ne fera pas, comme le pensait une fois un écrivain ecclésiastique, qu'il allait déposer son humanité au vestiaire après avoir rassemblé tous les élus, en disant « ça y est, maintenant, la peau d'âne ne me sert plus de rien, donc je vais la remettre au vestiaire ». Non, c'est définitif. C'est une orientation donc, qui finalise le projet de Dieu, le dessein d'amour bienveillant de Dieu pour sa création, pour son tout petit enfant qu'est l'homme, et qu'il veut ramener auprès de lui, qu'il veut l'autoriser à faire ce retour. Et nous aurons peut-être l'occasion, dans une émission suivante, de parler de l'importance de cet exitus et de ce reditus, cette sortie de la parole de Dieu et son retour, donc, avec tout le fruit que nous en tirons.
En tout cas, je me dis, finalement, avec cet échange, qu'on voit bien que dans notre histoire, dans une vie spirituelle aujourd'hui, mais dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas été si simple que ça, finalement, de tenir à la fois que c'est une parole de Dieu qui est pleinement divine et pourtant une parole qui est complètement passée par les hommes. Je pense, finalement, dans l'art a essayé de rendre compte de la façon dont l'inspiration pouvait être dessinée. J'aime beaucoup le tableau du Caravage, donc l'ange inspirant saint Matthieu. On pourrait se dire, saint Matthieu est un instrument, il reçoit ce que l'ange dit. Mais le peintre est particulièrement génial, puisque, si j'ai bon souvenir, je ne l'ai pas sous les yeux ce tableau, mais je l'ai en mémoire, c'est que saint Matthieu est sur un tabouret, le tabouret est sur une marche, et ça a l'air finalement assez bancal. Donc il y a cette espèce de fragilité humaine. Et pourtant, c'est bien l'homme qui écrit, c'est bien Dieu qui parle par son ange, donc c'est l'ange qui symbolise que cela vient pleinement de Dieu. Mais l'homme, avec tout ce qu'il est, on voit l'homme, il a des traits un peu d'un paysan d'ailleurs, quelqu'un bien ancré sur la terre.
Oui, et qui fait tout son effort pour comprendre ce qui lui est dit, et qui est sûr que finalement, ce qu'il va lui-même mettre par écrit, coucher par écrit, ça va être cette parole de Dieu efficace. Finissons par cette efficacité de la parole de Dieu. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas mes voix », dit le Seigneur Isaïe 55. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence aux semences et le pain à manger », ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. »